Dieu te bénit, bonjour à tous et à toutes. Alors désolé pour ceux et celles qui ont voulu réentendre la formation de la dernière fois. Il y a eu un petit problème technique, la pile a lâché en cours de formation, donc on ne peut pas la réentendre. On commence par se mettre dans la prière pour accueillir ce que le Seigneur va voir nous dire aujourd'hui par le Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière du Saint-Esprit, accordez-nous de penser ce qui est droit, selon ce même Esprit, et de jouir toujours de sa consolation. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, doux et humble de cœur, faites mon cœur semblable. Ô Marie, conçue sans péché. Alors, est-ce que je dois redonner un petit peu le charisme de la garde d'honneur ou est-ce que là, oui, on me dit oui. Alors, le charisme, très rapidement, ça va nous permettre. Un jour, je devrais bien vous laisser répondre. Et comme ça, je vérifierai si c'est bien vécu. Alors, donc le charisme, c'est de la garde d'honneur. Je crois que le Seigneur voulait vraiment nous inviter à un art de vivre avec lui, d'offrir tout ce qu'on va faire et vivre pendant l'heure qu'on aura choisie, à laquelle on est. Il nous a invités de toute éternité. Ça, il faut. Voilà, on est garde d'honneur parce qu'il nous a choisis de toute éternité pour rendre amour pour amour pendant cette heure. Et l'heure, on la définit comme vous voulez, soit en tenant compte des intentions qui sont proposées, ou aussi, comme font les enfants, on choisit l'heure la plus difficile pour la vivre et l'offrir à Jésus. Alors, c'est surtout pas, j'insiste, une heure de prière. C'est une heure d'offrande de ce qu'on va vivre. Alors, si un jour, pendant votre heure, vous êtes invité à un temps de prière, bien sûr, vous l'offrez. Mais beaucoup choisissent, pour pas poser, entre guillemets, un lapin à Jésus, on choisit l'heure où on va à la messe tous les jours, comme ça. Ça y est, hein, tout est dans les petites cases, c'est bon, je passe la douane. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est justement, le Seigneur dans sa pédagogie nous invite à sanctifier notre travail. Hein? Donc, pendant cette heure, je suis amenée à repasser, à faire la cuisine, à regarder la télé, à répondre à un appel téléphonique. Du coup, ça va m'obliger à peut-être éteindre la télé ou à regarder un truc. Alors, vous allez me dire, je suis peut-être un peu dépassée avec la télé, maintenant c'est obligatoirement sur Internet, sur l'écran. Mais du coup, voilà, si je regarde une émission qui s'avère que ça se trouve pendant mon heure de présence, eh bien, peut-être que oui, je suis invitée à passer à autre chose. Et voilà, donc c'est vraiment mes actions que je vais faire tout en pensant à Jésus, donc des œillades à Jésus, présent dans l'Eucharistie, qui va sanctifier, qui va donner de la valeur à ce que je vais faire. Hein, c'est ça l'heure de présence. Et quand j'oublie, ce n'est pas un péché, je supplée au moment où j'y pense. Moi j'ai tendance, et je vous le savais, à l'appeler la sanctification indolore. Eh bien oui, dis donc, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est la panne de la formation de la dernière fois. Il manque des chaises. Je vais en passer. Vous n'avez pas de chaises?
Si, non, on fait comme c'est moi qui les mets et j'ai restreint. Je me suis bon. Je m'en fais deux généraux.
Oui, j'appelle ça une sanctification indolore parce que c'est sûr qu'on pense beaucoup trop souvent que la sanctification c'est à la quantité de prière. En fait, moi je dirais que c'est à la quantité de vie divine qui nous traverse. Et le fait de penser à Jésus pendant dans ce qu'on va faire, on campe, on rend présent Jésus dans nos actions, et c'est lui, par sa vie divine, qui va donner de la valeur à ce qu'on fait. Seul l'amour donne de la valeur à ce qu'on fait, et c'est pas nous, hein, et là, en ces temps qui nous rapprochent du salut, hein, qui vient à nous, qui surtout avec ce dimanche du Létaré où on a cette pause dans le temps de l'Avent, de dire à Jésus d'être dans l'action de grâce, dans la joie. C'est vraiment le dimanche de la joie pendant l'Avent. C'est pour ça que l'ornement sera rose. On quitte le violet. Et bien, pour être dans l'action de grâce du salut qui vient, et il vient tous les jours à notre heure de présence, hein, si je veux faire un calque avec la liturgie. Et comment je l'accueille, comment je me laisse, on va dire, rejoint par le salut dans un événement qui va me contrarier, de la manière dont je vais le vivre. Donc, si je vis l'événement avec cette œillade sur Jésus, eh bien, j'accueille le salut pour moi et aussi pour les autres. Parce que la dimension de leur sainte, c'est aussi la réparation. C'est surtout et c'est uniquement la réparation. Donc, c'est offrir, vivre quelque chose en ayant cette conscience que Jésus est présent, je le rends présent par ma pensée, et je me laisse en même temps sanctifier, et en même temps, moi, dans cette attitude, eh bien, je répare pour mes péchés et tous les péchés du monde entier. Hein, mystérieusement, parce que ça nous paraît fou, mais Dieu a de la joie, il est venu que pour ça, pour cette heure du salut, et pas pour autre chose, hein. Donc la seule intention qu'a le cœur, que porte le cœur de Jésus, c'est notre salut, c'est le salut du monde. Et on sait que ce salut n'est pas, et on va le voir, même si on l'a déjà un petit peu abordé avec cette heure sainte, la sueur de sang du Sauveur à Gethsémani, c'est tout le monde est sauvé, mais tout le monde n'accueillera pas le salut. Hein, et même si ça nous consterne, eh bien, n'en faisons pas une hérésie pour autant. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, comme c'est impossible à envisager, du coup tout le monde est sauvé. Ben non, tout le monde n'est pas sauvé. Hein. Tout le monde est sauvé, mais tout le monde n'accueillera pas le salut. Et nous, dans notre démarche d'heure de présence, eh bien c'est obtenir justement des grâces, hein, par notre sanctification qui rejailliront sur les nôtres. Hein. C'est notre sanctification qui changera ce monde, hein, et pas les lamentations, qui fera quelque chose. Oui, bah, c'est bien le constat, entre guillemets, excusez-moi de la familiarité, le monde est pourri, mais ça on le sait, et puis ça change rien. Par contre, la manière dont je vais accueillir l'événement qui me trouble, ça va avoir un retentissement à l'autre bout du monde. Hein. Ça, vous savez, moi j'y crois beaucoup. Et sinon, je ne me serais pas enfermée dans un couvent. Pour le charisme de la gardeneur, il y a aussi une deuxième heure, mais il faut déjà avoir la première, où on va la vivre spécialement pour la conversion d'une, plusieurs personnes, un pays. Hein, donc c'est la même démarche, sauf qu'il faut c'est une deuxième heure. Donc il faut déjà être fidèle à sa première heure. Et sans une grâce extraordinaire, nous ne pouvons pas être présents du début jusqu'à la fin, conscients, on va dire, à Jésus. Donc quand on l'a offert au début de son heure avec la prière d'offrande, si au milieu de l'heure je l'oublie, Jésus, ça a été offert. Hein, il est pas, comme on dit, rancunier, le Seigneur. Donc vous l'avez offert au début, voilà, je ne l'ai pas oublié volontairement, j'ai été prise par mes occupations. Ce qui permet de prendre conscience que ce n'est pas si facile que ça d'être présent à Jésus. Hop, on est absorbé par son travail souvent. Hein. Donc c'est une petite éducation aussi. Hein. Ah ben, il faut que je demande davantage à mon ange gardien pour être présent à lui.
Ça peut être un exercice de démaîtrise de soi-même aussi.
Oui, ah, tout à fait. Moi, c'est pas la contemplative qui est devant vous. Elle apprend et c'est le bonheur sur la terre que d'être présent le plus qu'on peut à Jésus. Hein, alors, il y a quoi derrière ? Faut couper court à ces pensées inutiles. Il y a toute une éducation, toute une purification active et passive de l'intelligence, la mémoire et la volonté. Hein, on n'en parle plus aujourd'hui de ça, de la purification. Mais que vous le vouliez ou non, de toute façon, le Seigneur vous purifie. Si vous voulez approcher davantage de lui, Dieu vous purifiera dans vos à travers une mauvaise nouvelle, à travers une bonne nouvelle, parce que même une bonne nouvelle, une grande joie, ça occupe l'esprit. Donc il faut couper court et pas s'entretenir avec sa pensée. Nous ici, dans une vie cloîtrée, si on était tout le temps à penser à nous ou à ce qu'il y a dans le monde, on ne tient pas à l'intérieur. Hein. Et on sort. C'est pas parce qu'on n'a pas la vocation, c'est parce qu'on ne livre pas le combat. Hein. Et le combat, Dieu nous l'a livré pour nous à Gethsémani. Donc, j'irai, il faut aller puiser dans le cœur de Jésus la grâce hein, de tenir le combat. Hein. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, j'espère qu'on va voir, on va réussir à finir l'heure sainte. J'aurais mis trois formations. Alors, donc, pour ceux qui nous prennent, qui prennent le train en cours, de route, eh bien, on est toujours dans la deuxième apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie, donc un premier vendredi de juin 1674, où là, il lui demande hein, de lui tenir compagnie pour suppléer à l'absence de ses apôtres hein, qui se sont endormis. Alors, l'agonie, qui veut dire un combat, de Jésus à Gethsémani se présente dans l'évangile comme la tentation suprême. Puisque je le redis aussi, mais je l'ai dit la dernière fois, je m'appuie sur les écrits du pape Benoît XVI et sur le père Verlande. Je tricote avec les deux. Hein. Comment ?
Le titre
du livre de Benoît XVI ? Non, c'est une conférence. J'ai pas lu. C'est une conférence qu'il avait prêché sur un tridium pour une semaine sainte. Donc je ne sais même pas si ça existe encore. Je sais pas trop. À la fin du récit des tentations du désert, Saint Luc précise, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Ce moment, c'est Gethsémani. Alors d'abord un mot sur la tentation. On parle des tentations de Jésus, mais attention à bien utiliser, ça c'est le père Verlaine qui nous invite, ce terme analogiquement, car le « je » de Jésus, ne l'oublions pas, est celui du Fils unique de Dieu, venu dans la chair. La tentation pour nous, c'est une oscillation, une hésitation, un balancement entre le bien et le mal. Parce qu'il y a toujours quelques complicités en nous avec ce fameux mal. Hein, on est marqué par le péché, donc nous, on ne peut pas viser uniquement au bien. Hein, on sera toujours, voilà, et c'est en but des purifications, d'être moins sollicité, moins être, comment dirais-je, intérieurement, on va dire, séduit hein, par la tentation. Il y a une accroche par rapport à la tentation chez nous. Hein. Chez le Fils, chez Jésus, c'est... Non. Vous ne trouverez évidemment pas cela en Jésus. La deuxième personne de la Trinité, qui s'adresse à nous à travers une psychologie humaine, n'hésite pas entre le bien et le mal. C'est trop clair, il n'y a pas ce balancement de sa liberté. Ce n'est que dans la matière que les tentations de Jésus ressemblent aux nôtres. Le soir du jeudi saint, or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il ne s'attaque donc plus directement à Jésus, mais passe par l'un de ses disciples, par Judas, l'un des siens, un de ceux que Jésus a reçus du Père, pour le ramener dans le bercail. Jésus sortit de la salle du cénacle, il faisait nuit. Comme Jésus va le confirmer au moment de l'arrestation, c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Voilà l'attaque du Satan. Nous ne sommes plus au désert devant des tentations dont la matière est strictement humaine. Jésus n'est pas tenté dans sa faiblesse humaine, il est tenté en tant que fils, chargé de ramener les enfants de Dieu au Père. Il est tenté dans sa mission. Tu crois que tu vas ramener toutes les brebis à la bergerie du Père ? Voilà. Imaginez Satan tourner autour de Jésus à Gethsémani. Quelle présomption, mon cher Jésus! Regarde, je commence tout de suite avec Judas. Ce n'est plus dans la chair qu'il est tenté, ni dans les modalités dans lesquelles il doit remplir sa mission. Non, c'est sur la réussite de sa mission, sur le dessein que le Père lui a confié et qui va être contredit, mis en échec par la liberté créée de Judas que Satan a réussi à dévoyer. Il n'y a pas que Judas, bien sûr, il y a tous ceux qui refusent la croix ou qui désespèrent de leur salut, comme Judas le fera dans un deuxième temps. Voilà le combat suprême de Jésus à Gethsémani. Satan va le mettre cruellement devant la possibilité de l'échec de sa mission. Donc c'est intéressant, si je m'arrête 5 minutes là, de considérer nos combats, hein, nos tentations, quand on doit choisir entre le bien et le mal. Hein. D'imaginer, de camper dans notre imagination, elle est faite pour ça. Hein, tout ça nous a été donné par Dieu. Après, c'est certes besoin d'être purifié, mais c'est quand même donné pour communier au surnaturel. Voilà, d'imaginer Jésus, ce que ça lui a coûté, hein, on va dire, le fait que nous, on choisisse le bien ou le mal. Hein, quand on choisit le mal, par propre intérêt, parce qu'on n'a pas toujours, bien sûr, conscience. Moi, je juge personne en disant ça. J'invite plutôt chacun à se placer devant Dieu et devant ses choix. Mais on fait des choix qui sont mauvais. Je suis désolée, ça existe encore, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que ça n'existe même plus maintenant, les choix mauvais. Non, ça existe encore. Eh bien, faire un choix mauvais parce que, parce que ça nous coûte trop, ou parce qu'on a un attachement trop important à une personne, trop, c'est désordonné, hein. Et puis Jésus ne me demande pas ça, enfin il va pas jusque là, enfin on a une capacité à se leurrer, on va dire, de l'exigence, hein, devant l'amour, on va dire, hein, devant, alors ça s'appelle la croix, mais la croix elle est faite à partir du moment où on dit non à ce qui nous est proposé de choix qui va, et on va le voir, hein, qui va nous demander de purifier notre volonté. Hein. Et la volonté qui est, comment dirais-je, encrassée, endurcie par l'orgueil, eh bien, elle fait des fois des choix qui sont pour nous morbides pour la vie de notre âme. Hein. Mais voilà. Alors, un autre paragraphe, le refus du pain de vie dans ce chemin où Satan a dévoyé la voie, l'âme de Judas. Pour comprendre le mystère de la coupe de Gethsémani, il me semble important, dit Père Verlin, de saisir le lien que suggèrent les évangélistes entre le moment où Satan entre dans Judas et le mystère de l'Eucharistie. Que c'est ça qui est impressionnant, c'est au cours de la scène. Hein. Saint Jean dit que Judas prend la décision de livrer Jésus au moment où il lui donne la bouchée. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Saint Jean, chapitre 13, verset 26. Ce qui est arrivé à Judas, selon Saint Jean, Benoît XVI, n'est plus psychologiquement explicable. Il est tombé sous le pouvoir de quelqu'un d'autre. Celui qui brise l'amitié avec Jésus, se débarrasse de son joug aisé, n'arrive pas à la liberté, mais devient l'esclave d'autres puissances. Le fait de trahir cette amitié découle de l'intervention d'un autre pouvoir auquel on s'est ouvert. En Judas, nous nous trouvons face au danger qui menace tous les temps, dit Benoît XVI. Hein. Le danger que même ceux qui ont été illuminés, qui ont goûté au don céleste, à travers une série d'infidélités apparemment minuscules, tombent spirituellement et, quittant la lumière, entrent dans la nuit et ne sont plus capables de conversion. C'est... Enfin, fin de la citation, ça fait trembler. Hein. Et c'est nos petits refus. C'est, nous, on appelle enfin, l'évangile, la parole de Dieu, l'appel. Vous savez, cette vigne, hein, qui est donc Israël, mais qui est aussi notre âme, eh bien, qu'on ruine par des petits, des petits manquements, on va dire, des petites infidélités. Hein. Et alors, c'est tout petit, des fois, ça se voit même plus. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, compte, la lumière hein, ne nous éclaire plus, en fait, compte. Et c'est pour ça que d'une petite infidélité, on en fait une deuxième, une troisième, pour après trahir, comme Job, il ne faut pas croire. On est tous, enfin, malheureusement, au fond de nous, on peut tous être un Judas un moment ou un autre. Hein. Donc, le jeu de la conversion, hein, c'est pas de comment dirais-je, alors, il y a ces conversions extraordinaires, magnifiques, qu'on passe d'une vie sans Dieu à une vie avec Dieu, mais même une moniale, tous les jours, elle entreprend une conversion. Ça veut dire de dire oui, hein, de percevoir ses infidélités, une porte que je vais fermer avec, sans y faire attention, sans lui dire que je l'aime. Voilà, parce que j'ai entrepris, on va dire, nous à la visitation, le silence, cette vie intérieure, cette vie avec Dieu, nous demande de faire le moins de bruit possible. Et c'est tout petit, on va dire. Qu'est-ce que vous voulez, ma sœur, que la porte soit fermée avec le plus de silence possible? Qu'est-ce que ça va changer dans notre monde? Moi, j'y crois que si je fais attention à la manière dont je ferme la porte, quand je rentre dans une pièce et que je dis à Jésus que je l'aime, je veux croire que ça permettra la fidélité à un autre que je verrai quand j'arriverai là-haut. Donc, si j'y suis pas attentive, eh bien, je vais faire plus de bruit à l'intérieur, à l'extérieur de moi. Donc, du coup, je serai moins attentive à l'intérieur, à la présence de Jésus qui m'habite. Et du coup, petit à petit, je vais moins penser à Jésus. Hein. Et moi, ma fécondité, mais la vôtre, dépend de l'attention que je mets à la présence qui m'habite. C'est pas aux exploits que je vais faire, hein, au grand jeûne, j'en fais pas, j'en suis pas capable. D'abord, c'est pas partie de ma règle. Mais par contre, ma règle me demande d'être fille d'oraison. Et la manière dont je vais vivre cette attention à la présence, c'est ça qui fera ma fécondité, donc c'est ce qui fera aussi le fait que le monde change. Alors, si je l'applique pour vous, cette attention à la présence quand je suis dans le monde, c'est certes pas la même manière que moi, mais voilà, il y a la prière du matin. Le prochain, comment je le vis, comment je vis mon travail, est-ce que je vois dans mon prochain, dans mon chef ou dans mes sous-chefs, eh bien, ceux qui me représentent Jésus? Et quelle attitude? Alors bon, c'est bon, aujourd'hui je suis fatiguée, on verra ça demain. Oui, mais demain, après-demain, il y aura moins de lumière, et du coup, ça devient, et on comprend, hein, ça devient plus du péché. Voilà. Alors, c'est pas du péché mortel, mais c'est des infidélités. Et après, c'est des fragilités, et puis après, on fait qu'on pêche. Hein. Donc, non, il n'y a pas de péché mignon. Et c'est, en somme, si vous voulez, tout dépend où on en est. J'aime assez cette histoire de la Madrid de Calcutta qui avait une femme qui achetait 5 saris. Et à chaque fois qu'elle allait dans un magasin, elle achetait 5 saris. Et du coup, mais comment je peux faire pour en acheter plus qu'un? Et elle lui dit, la sagesse, hein, elle lui dit, la prochaine fois, vous en achèterez 4. Donc, on a tous des situations de fragilité, de faiblesse, voire de péché, où on sait très bien que sur la liste, quand on va se confesser tous les mois, c'est toujours sur la liste. Hein, et on n'arrive pas à s'en sortir. Eh bien, de ma confession à la prochaine confession, Jésus, avec ta grâce, je m'engage à faire une fois de moins, par exemple, un péché de gourmandise, je suis incapable de ne pas manger entre les repas, eh bien, je ne vais pas le faire une seule fois de moins sur tout ce que j'aurais comptabilisé. Hein. Il faut savoir que nous, à la visitation, avec Saint François de Sales qui dit choses extraordinaires sur les moyens de faire, de préparer sa confession, dans l'introduction à la vie dévote, entre autres, hein, on compte le nombre de péchés qu'on fait, le nombre de fois. Par exemple, j'ai manqué à la charité vis-à-vis du prochain. C'est pas je me confesse d'avoir mal parlé à mon prochain par défaut d'humilité, mais ça combien de fois? Imaginez, c'est une centaine de fois en l'espace d'une semaine, c'est énorme. Si c'est deux fois, bah, c'est pas la catastrophe, vous voyez. Donc c'est important dans vos confessions de dire au confesseur, et ça on le demande en général jamais, eh bien le nombre de fois. La durée aussi, là je fais une grosse diversion, mais la durée avec, dans laquelle vous allez vous entretenir sur vous-même. Si c'est 3 secondes, si c'est 3 jours, je fais la tête à ma femme et ça fait 10 jours que ça dure. Je ne céderai pas. Ben, je suis désolée, pour moi si j'étais le confesseur, je ne donnerais pas la même pénitence. Ce n'est pas la même gravité du péché, vous voyez. Je me suis enfermée, endurcie dans le péché. Donc ça dure depuis une semaine et je lui fais la tête, il faut qu'elle sache que je lui fais la tête, quoi. D'accord? Alors, la raison du trouble de Jésus. Nous avons vu comment le démon a changé de tactique. Il ne l'attaque plus, hein, dans son humanité, mais dans sa mission divine, en lui montrant jusqu'à ce qu'il en sue le sang, le refus des hommes qui ne veulent pas de son sel. Saint Jean ne parle pas de l'agonie dans son évangile, mais il en fait une allusion. Maintenant, je suis bouleversé, que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure, Père, glorifie ton nom. Essayons de comprendre rapidement d'où vient ce trouble. Il y a deux niveaux d'expérience qui nous donneront une explication de notre propre combat intérieur. La nature humaine de Jésus recule devant une mort qui lui est infiniment plus antinaturelle, on l'a vu la dernière fois, que nous. Nous sommes marqués par le péché qui entraîne la dégradation inévitable vers la mort. Mais sa nature à lui est sans péché et unie au Verbe de Dieu qui est le vivant à jamais. La mort est pour lui totalement antinaturelle. Il la repousse spontanément, cette mort, mais la volonté divine qui soutient la volonté humaine de Jésus veut accomplir la rédemption. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et Benoît XVI écrit, dès la création, la volonté humaine est orientée vers la volonté divine. Dans l'adhésion à la volonté divine, la volonté humaine trouve son achèvement et non sa destruction. La volonté humaine, selon la création, tend à la coopération avec la volonté de Dieu. Mais à cause du péché, cette synergie s'est transformée en opposition. Et le drame du mont des Oliviers consiste en ce que Jésus ramène la volonté naturelle de l'homme de l'opposition à la synergie, à la coopération et rétablit ainsi l'homme dans sa grandeur. Le combat de Jésus, c'est qu'il a pris sur lui tous nos refus, notre volonté qui depuis le péché s'oppose à Dieu. Hein, ces choix qu'on fait. C'est même encore une définition du péché, le refus de la volonté de Dieu. C'est ça le péché, hein? La défiance de sa bienfaisante et donc l'instauration d'une volonté propre qui s'oppose à la volonté de Dieu, dont on soupçonne qu'il soit malveillant. On a peur de Dieu depuis le péché. Ainsi Jésus a pris sur lui toutes les résistances de ma volonté par rapport à la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il a senti ces résistances, qu'il les a surmontées par sa fidélité à la volonté de son Père. Nous ne pouvons imaginer ce que cela représente, mais il suffit de nous souvenir d'un moment où nous étions dans un intense combat spirituel pour savoir que ce n'est pas facile de ramener une volonté humaine qui est occupée à s'égarer sur le chemin de Dieu. Hein, C'est, je sais qu'il me demande ça, mais c'est, ça va me demander ça, ça va me demander de quitter ça, ça va, ça va, ça va. Ah non, Jésus, non, je te dis non là. Voilà. Et c'est pas sa volonté à lui, à Jésus, hein, c'était la nôtre. C'est pour nous qu'il a vécu Gethsémani. Souvent on dit, il avait du mal à dire oui. C'est comme ça que c'est des fois il y a des commentaires, vous trouvez des commentaires du combat à Gethsémani. C'est la volonté humaine de Jésus. Il est innocent, hein. Il est sans péché. C'est une hérésie pour moi. On en fait tellement un homme comme nous, hein. Il reste Dieu. Ok, il est homme, mais il est Dieu. Hein. Donc, dans cette volonté qui perd, hein, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est notre volonté qui se joue là à dire oui à Jésus. Et Jésus va le sentir dans son être, il va vouloir. Et ça, c'est ce qui, enfin, c'est le cadeau avant Noël. Hein. Eh bien, parce qu'on ne serait pas, s'il n'y avait pas eu Gethsémani, hein, s'il n'y avait pas eu la passion, s'il n'y avait pas eu le combat de Jésus face à la volonté du Père, eh bien, il n'y aurait pas eu, nous ne serait pas aujourd'hui capable de dire oui à Jésus. Je ne sais pas si on imagine. Alors, ce qui m'enthousiasme à Gethsémani, c'est que quand j'ai mes difficultés à dire oui à Jésus, mais j'ai qu'à me replonger dans la grâce de Gethsémani, et là, je m'appuie sur « Non, Père, ta volonté ». Voilà. Je peux donc dire oui à ce qui me sera demandé, à travers, pas obligatoirement à Dieu face à la croix dans mon oratoire, hein, face à ma supérieure, face à un événement, face à mon mari, face à mes enfants, face à une injustice dans le travail, face à ce que nous, ce que vous appelez le hasard, ça n'existe pas. Mystère de la providence, voilà. Et alors, il faut donc l'aide de la grâce, et cette grâce que nous invoquons et que nous recevons à ce moment-là, Jésus nous l'a méritée à Gethsémani. Ce qui est chouette, c'est que ça nous laisse tout petits. Quand on réussit à dire oui à Jésus, alors, j'ai réussi, je suis contente, hein, je suis contente de moi. Bah, c'est bien, mais pour monter plus haut, en fait, c'est Jésus qui nous a mérité la grâce de pouvoir dire oui à sa volonté. Donc, en fin de compte, sans toi Jésus, je suis rien, et je suis vraiment rien. Vous voyez, ce que c'est on croit que l'humilité, c'est de se dire, je suis nulle, je vois rien. Pour moi, ce n'est pas l'humilité, c'est de l'orgueil. La vraie humilité, c'est dire, Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. Donc, sans toi, je ne peux pas dire oui à ma femme qui me demande d'aller à une rencontre avec sa belle, ses parents auxquels j'ai pas envie d'aller, etc., etc. C'est des choses aussi simples que ça. Vous savez, le quotidien, quoi. Hein, faut que je me lève, faut que j'aille travailler, il fait nuit, froid, Jésus, quoi. Et je me raccorde un quart d'heure. C'est une infidélité. Je n'ai pas adhéré à la volonté de Dieu où j'ai mis mon réveil à sonner à 5 heures. Vous voyez, c'est pas. Alors, il y aura des grands moments dans votre vie où il y aura des arrachements, on va dire, des volontés qui seront d'une extrême importance. Mais il y a aussi cela, celle-là. Hein. Donc, cette grâce que nous invoquons et que nous recevons à ce moment-là, Jésus nous l'a mérité à Gethsémani. C'est lui qui nous a donné cette force de revenir sur le chemin alors que nous glissions sur de mauvaises pentes. C'est lui qui a surmonté nos résistances. Voilà. Quand on est une mère de famille et qu'on voit ses enfants prendre un autre chemin, et ils leur posent leur volonté sur des jeux dangereux, des amitiés dangereuses, voilà. S'inquiéter, c'est normal, mais est-ce que ça changera quelque chose? Non, l'inquiétude n'a jamais rien changé. Par contre, faire un acte volontaire, hein, même si vous ne pouvez pas prendre la place de la volonté de vos enfants, mais appelez justement à la grâce de Jésus à Gethsémani pour qu'il influence la volonté de mes enfants. Hein. Voilà, Gethsémani, la grâce que tu as gagnée, que tu m'as gagnée, voilà, influence, que cette grâce influence le choix que font mes enfants. Tout repose sur la foi. Dans la volonté humaine naturelle de Jésus, est en quelque sorte présente en Jésus lui-même toute la résistance de la nature humaine contre Dieu. Comprenez l'intensité du combat. Notre obstination à tous, toute l'opposition à Dieu est là. Et Jésus entraîne dans son combat la nature récalcitrante vers le haut, vers son essence véritable. Parce qu'on est fait pour Dieu. Cette victoire que Jésus a obtenue est pour nous. Quand nous sommes dans la tentation, dans le combat, vouloir en sortir tout seul, comme des grands, c'est être battu par avance. Et ça, c'est de l'orgueil. En fait, compte, l'humble sait qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et je dirais, c'est spontanément, enfin, ça se dit tout seul, qu'on va le demander à Jésus, parce qu'il n'y a pas, on ne compte pas sur soi. L'orgueilleux compte sur soi. L'humble compte sur quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, il sait, hein, parce que l'humble a une foi plus spontané, l'orgueilleux mystérieusement fait moins spontanément confiance à Dieu. Hein? Parce qu'il y a plus d'orgueil chez l'humble, il y a l'absence d'orgueil. Lever le regard vers Jésus, invoquer sa grâce, c'est participer à sa victoire qu'il a obtenue pour nous. Donc quand je dis une mère de famille qui en appelle à la grâce à Gethsémani, participe à la victoire dans l'audace de sa foi, à cette volonté de ses enfants qui feront un autre choix. Ce n'est hélas pas toujours ce que nous faisons. Voilà, on part déjà battu, quoi. Enfin, je veux dire, on voit pas l'enjeu ou on n'y croit plus, quoi. C'est, j'y arrive pas, quoi. Le problème, il n'est pas là, quoi. Le problème, c'est un problème de foi, en fait, compte, hein, de relation avec Dieu. Jésus est le signe visible dans sa passion de l'absorption de tout le mal du monde dans son amour. Il a tout pris sur lui. Il a pris la contradiction de notre péché sur lui pour nous en délivrer. Le Verbe a pris chair de notre chair pour arriver à cette heure. Donc le 25, c'est aussi ce moment-là, c'est aussi Gethsémani qui se trouve dans la crèche. Hein, Sainte Marguerite Marie dit qu'au moment de l'incarnation, la croix s'est plantée dans le cœur de l'enfant Dieu, de Jésus. Hein, qui s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair et à ce moment-là, la croix s'est plantée. Donc tout le mystère du mal absorbé par l'amour, c'est ça aussi Noël. Hein. Et on a un peu tendance à l'oublier. Hein. C'est un enfant Dieu, c'est Dieu qui se rend visible à nos yeux et qui tout petit, alors je peux faire ce que je veux. Il est tellement petit, tellement enfant. Il a voulu prendre l'apparence d'un enfant. Donc, il me pardonne tout. Oui, mais à quel prix ? Il faut jamais séparer le mystère de Noël avec le mystère de la passion, de la mort et résurrection. C'est un même mystère. On vit des heures à Noël quelque part. D'enthousiasme, de joie, mais de gravité. Hein. une gravité joyeuse et une joyeuse gravité. L'heure de Gethsémani où il sauve l'humanité en faisant descendre son amour jusque dans tout ce qui en nous s'oppose à l'amour. Et c'est ça le péché. Oh non, je ne l'inviterai pas à Noël, elle ne m'a pas dit bonjour la dernière fois, je vais lui montrer que je ne suis pas contente, je ne l'invite pas. C'est ça, hein. Nous savons que l'amour procède de la volonté et de la liberté. Comme le refus, Gethsémani, c'est le combat de la volonté et de la liberté du Fils de Dieu contre notre volonté et notre liberté pervertie. Voilà. Ce qui est frappant, c'est que le trouble de Jésus est lié à Gethsémani et non au reste de la passion. À plusieurs reprises, Jésus a exprimé son désir de recevoir ce baptême de la passion, de libérer le feu de l'Esprit sur la terre. Et lorsqu'au cours de la dernière scène, il anticipe son offrande, il le fit sereinement. Il annonce sereinement « Ma vie, nul ne me l'enlève, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Il est parfaitement serein. Il n'y a pas l'ombre d'un trouble. Le trouble de Jésus ne commence qu'au sortant du cénacle où il a institué l'Eucharistie paisiblement, sereinement, dans la joie. Quand il sort et qu'il va rejoindre Judas dans la nuit, voilà quand le trouble commence. Et le trouble disparaît quand Judas lui donne le baiser et scelle sa trahison. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Le trouble est uniquement le temps de l'agonie. Alors nous, quand on sent un trouble, quand on sent un trouble face à un choix, c'est qu'il ne faut pas que je choisisse. C'est faux. Souvent, on pense que le trouble intérieur, c'est parce qu'il ne faut pas prendre la décision. Il ne faut surtout pas prendre la décision. C'est faux. Il ne faut jamais remettre en cause une décision dans un trouble. Ce n'est pas pareil. Je dois choisir. Je tourne à gauche ou je tourne à droite. Hein, c'est deux situations, droite et gauche. Laquelle ? Je suis troublée. Par contre, si je me rentre dans ma prière, si je rentre en moi, où est le bien ? Parce que le choix, c'est toujours le bien suprême chez saint Thomas, c'est Dieu. Nous, aujourd'hui, c'est ça qui est dingue, hein. Nous, aujourd'hui, le bien, c'est plus Dieu. C'est mon bien. Le bien, chez saint Thomas, c'est Dieu. Quand je dois prendre une décision, le bien, c'est quoi? C'est Dieu. Dans n'importe quelle situation, il y a un choix que je dois poser. C'est ce que Dieu me demande, mais pour m'approcher de lui, pour devenir un peu plus comme lui. Donc, le choix que je vais poser, s'il y a un trouble, c'est pas parce qu'il faut pas que je le prenne, c'est parce que ça vient déranger mon orgueil. Hein? Par contre, quand j'ai pris la décision, et je l'ai pris, et souvent, quand on prend sa décision, il y a la paix aussitôt. Hein? Le trouble tombe, il faut poser l'acte, et après, la paix arrive. Et puis, il suffit qu'il y ait une semaine qui doit s'écouler avant que je m'embarque sur la décision que j'ai prise. Waouh, là par contre, il y en a un qui s'amuse à nous sauver comme un prunier. Et là, je remets en cause ma décision prise. Là, il ne faut jamais, jamais la remettre en cause. Elle a été prise dans la paix, hein, il ne faut pas la remettre en cause. Vous voyez le trouble, hein, qu'on sent et que Jésus a senti à Gethsémani, pourquoi on vient de le voir? Parce qu'il fallait que ma volonté adhère à la volonté de Dieu. Et à cause du péché originel, je suis tentée de faire des choix qui sont contraires à mon bien. Et mon bien, c'est de correspondre à la volonté de Dieu. Mon bien, c'est mon salut. C'est la vie éternelle, mon vrai bien.
Mais la volonté de Dieu, quelquefois, ça se voit très bien. Il y a d'autres fois, l'autre, il fait tellement teinte à mort qu'on ne sait pas trop.
Ouais. Alors, Alors, oui, c'est ça le problème. Alors, souvent on me dit... Oui, mais si on tient au mystère, j'entends très bien, je vais vous répondre, parce que bah, moi je vis la même chose que vous, hein. Et souvent on peut dire, oui, comme vous, comment savoir où on m'attend. Par exemple, je prends l'exemple de la vocation. Voilà, je ne sais pas si je suis appelée au mariage, je ne sais pas si je suis appelée à la vocation religieuse, que moi j'accompagne à l'intérieur les retraitants pour le discernement. Et alors, c'est un sujet que je connais. Et puis, comme il a fallu que je choisisse, je connais. Alors, il y a des fois, comme vous dites, on voit la volonté, c'est clair, quoi. Ça se voit comme le nez au milieu du visage, on sait c'est ça qu'il faut faire, hein. Alors, acheter une voiture, parce que la mienne est en panne, ça dit tout seul. Surtout quand le mécanicien me dit, elle est morte, hein. La voiture, ça va être des frais supplémentaires si vous devez acheter une nouvelle, si vous devez la faire réparer. Donc, c'est clair. Donc, il y a des vocations religieuses ou des vocations au mariage, c'est clair. Je sais que c'est cet appel-là, c'est fin, ça se sait. Et quand on ne sait pas, par contre, il n'y a qu'à se laisser faire par la providence. Voilà. Je ne sais pas si je suis appelée au mariage, je ne sais pas si je suis appelée à la vocation religieuse. Alors moi, je dis, bon, très bien, je pose quelques 3, 4, 5 questions. Puis je dis, mais par contre, je connais personne. Enfin, j'ai pas un homme avec qui je peux éventuellement envisager un mariage. Je connais personne de la gente masculine. Bon, c'est déjà un atout, enfin, c'est un élément pour se dire, c'était pas le mariage. Hein. Envisager un mariage alors qu'il y a personne, parce que jusqu'à maintenant, on se marie à deux. Hein? Et et on connaît des personnes qui sont persuadées d'être appelées au mariage, mais qui attendent, les années filent, et il n'y a rien qui se fait, quoi. Alors il faut peut-être se remettre en cause, vous voyez. Et alors, je prends l'exemple un peu, c'est volontaire, hein, que j'ai pris l'exemple qui est un peu choquant, mais la volonté de Dieu, elle est manifestée dans le quotidien. Par contre, je dois aller au marché. Qu'est-ce que je vais acheter? De quoi j'ai besoin? Voilà, c'est tout simple. Ça se déroule devant nous. Je veux dire, je suis malade. Quelle est ta volonté, Jésus? Que je me soigne toute seule ou que j'aille chez le médecin? Je vais d'abord essayer de me soigner toute seule, et puis si ça ne réussit pas, j'irai chez le médecin. La volonté de Dieu, elle se déroule, vous voyez. On se prend, à mon avis, trop la tête pour savoir ce que Dieu attend de nous. C'est ouvrir une porte, prendre sa voiture, c'est la volonté de Dieu que je prenne ma voiture parce que ça fait, je dois faire 20 km. En fin de compte, c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. En fin de compte, c'est comme ça que Dieu va vous conduire à peut-être rencontrer quelqu'un. Et peut-être si le quelqu'un n'est pas rencontré, de revoir votre intention. Et souvent, en fin de compte, on accuse Dieu. Mais comment veux-tu que je connaisse ta volonté? Mais on est en fin de compte accroché comme un coquillage sur le rocher de notre volonté à ce qu'on veut. On dit à Jésus, montre-moi ta volonté, mais on fait compte, au fond de soi, bien au fond, bien entendu, on ne se l'avoue pas soi-même parce qu'on aurait un peu honte, mais j'ai pas du tout envie de me faire bonne sœur, c'est ça que j'entends, moi. Il y a des sœurs ici, c'était ça, j'ai surtout pas envie de me faire bonne sœur. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez entendre la volonté de Dieu? En fait, il faut une disposition intérieure pour entendre la volonté de Dieu. Il faut en somme n'avoir aucune volonté. Voilà. Il faut se mettre dans une disposition d'une volonté qui veut Dieu. Parce qu'il y a des vocations, même le mariage et même la vocation religieuse, si je reprends sur ce sujet-là, qui coûtent un peu à nos projets de carrière, de bonheur, de ce qu'on s'est imaginé. Et du coup, on a nos petits plans de bonheur. Et puis, on est persuadé que c'est ça que le Seigneur nous demande. Hein? Donc, ce soit dans une vie à deux, les vacances, les choix. Oh, c'est sûrement la volonté de Dieu qu'on aille, comment dirais-je, à la montagne parce que j'ai trouvé un super camping pas cher et tout. Ah ma chérie, c'est ça, je suis sûre que c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est sûr mon chéri, mais par contre, t'as pris la décision tout seul et la famille. Ben voilà. Vous voyez ? Ben oui, c'est sûr qu'il arrive pas, lui demande à tout le monde. Et en somme, c'est peut-être pas sûr que les vacances à la montagne, ben, ça aura été le choix de la famille. Et après, on va dire, mais comment faire pour connaître la volonté de Dieu ? Il y a des règles, des codes dans la vie, vous voyez ? Et la volonté de Dieu se manifestera dans le très 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 concret à travers les codes domestiques, on va dire. Du coup, c'est simple de connaître la volonté de Dieu. Par contre, et connaître la volonté de Dieu, ça se joue à Gethsémani. Enfin, Dieu l'a joué pour nous à Gethsémani. Hein. Ça lui a coûté la sueur de sang. Hein. De ramener notre volonté dévoyée, qui tout le temps a cherché son propre bonheur, égoïstement, ça lui a coûté, Gethsémani, la sueur de sang, pour ramener notre volonté à la sienne. Hein. Mais quand on a des choix à poser, c'est qu'est-ce qui va me rapprocher le plus de Dieu ? Donc le trouble est uniquement le temps de l'agonie, le temps de Gethsémani, le temps de l'affrontement dans la nuit avec la volonté contraire de l'homme. Mais une fois qu'il a vaincu, Jésus, pendant toute sa passion, la condamnation, la flagellation, le portement de la croix et même la crucifixion, est dans une parfaite sérénité. Jésus se fait mettre à sang tout le long de sa passion. Il n'est plus qu'un ver de terre quand il arrive sur sa croix. Il s'est laissé faire. Reprenez les évangiles. À aucun moment, il en a mis un gauche ou un droite, hein, il n'a rien fait. Hein. Il s'est laissé mettre tel en ver de terre. Il ressemble plus à un homme à la fin. Dans l'évangile de Jean, c'est frappant, Jésus domine de la tête et des épaules toute la passion. Et ça, c'est extraordinaire. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, il dit à Pilate, si cela ne t'avait été donné d'en haut. Et aujourd'hui, dans nos situations, on dit, oh ben Jésus, il est vraiment tout puissant dans nos situations où on dit quelle est la volonté de Dieu dans tout ça, mais on a l'impression qu'il n'y a toujours que le mal qui réussit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Tout est permis par Dieu. Donc comment voulez-vous vous tromper dans vos choix ? Il n'y a pas de problème en somme. Hein ? C'est par contre, qu'est-ce qu'on veut dans les choix qu'on va poser ? Notre petite réussite, nos petits bonheurs, il y a des choix qu'on pose qui nous crucifient, qui nous mettent sur la croix. Attention, hein. Nous voyons bien où est le lieu du trouble et nous voyons aussi pourquoi il s'arrête avec le baiser de Judas. Ce baiser est une rupture d'alliance. Jésus l'a reçu avec une plénitude d'amour. C'est extraordinaire ça, hein. Nos trahisons de tous les jours. Hein. Il a reçu la trahison de Judas dans un cœur qui n'est qu'amour. Il a fait fondre la trahison dans sa surabondance d'amour. Ce qui accuse Judas, ce n'est pas sa trahison, c'est son désespoir. Parce que Pierre a trahi Jésus. Donc, puis en plus, enfin, trois fois s'il vous plaît. Hein. Mais il fallait les trois fois. Et c'est tout autre chose, c'est un péché contre la charité. Ne pas croire en la miséricorde de Dieu. Pierre a renié, mais il a croisé le regard de Jésus et a cru à la miséricorde. C'est dans cette nuit de Gethsémani que Jésus est confronté à la liberté humaine, à la mienne. Je peux refuser ton amour. Je ne peux pas croire que Dieu puisse me pardonner. C'est pas possible. C'est ça qui donne la mort. C'est ça hein, qui pousse à à désespérer du salut pour soi et pour notre monde. Quand on ne peut pas croire sur notre monde qu'il est sauvé, quand on voit tous ces choix, c'est en fait parce que nous-mêmes, on ne croit pas à notre propre salut. Dieu est tout puissant, ce n'est pas la marée de boue dans laquelle le monde se vautre qui pose un problème à Dieu. En ce moment même, que d'aspect en moi refuse ton amour. Et c'est là-dessus que je vous inviterai à rentrer la semaine prochaine. On va commencer le 17, on rentre dans cette grande semaine préparatoire à Noël. Donc toute la liturgie, si vous prenez les textes, tous les textes vont nous préparer à cette venue du salut, à ce combat que Jésus a pris sur lui, mais qui est gagné grâce à son amour. Et voilà, tous ces refus, prendre conscience, moi, aujourd'hui, et puis tous les jours, de mes refus que je lui oppose, que j'oppose à son amour. Mais tous ces petits trucs de rien, voilà. Demandant à Marie de nous les montrer. Voilà. Si nous l'acceptions pleinement, nous serions sanctifiés dans l'instant. Parce que c'est l'amour, c'est la vie divine qui nous sanctifie. Si nous ne sommes pas saints, c'est bien parce que nous refusons son amour. Dans une volonté qui nous crucifie, c'est pas la volonté pour la volonté, c'est dans la volonté qui me crucifie, c'est son amour qui va venir me visiter. Donc si j'arrive à regarder au-delà de ce que je sens, donc je suis capable de dire oui à ce qu'il me demande, même si ça me crucifie. Et là, je vais me recevoir, je vais être envahie d'amour. Pour ça que la joie vient après qu'on a pris la décision. Ce sont tous ces refus qui ont troublé Jésus. Alors si nous pouvons lui offrir quelque chose, ce n'est pas notre apitoiement sur son sort. Non, c'est d'ouvrir notre pauvre cœur malade au baume guérissant de sa miséricorde, de sa victoire. En tant que garde-honneur, c'est sûr qu'on peut pleurer sur tout ce que Jésus a souffert pour moi et pour chacun d'entre nous, et puis. Mais voyez, on voit bien le côté de la Doloris de à quoi ça sert. Faut temporiser, dire voilà, c'est sûr que Jésus a souffert tout ça, mais si c'est aujourd'hui, il le refait tous les jours à l'Eucharistie, parce qu'il revit sa passion non sanglante à l'Eucharistie. Mais moi, après, quand je reçois Jésus, donc cet amour, qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est facile de pleurer sur la passion, sur toutes les souffrances qu'il a vécues pour moi. Mais est-ce que c'est ça qu'il nous a demandé? Est-ce que c'est de s'apitoyer sur Jésus? Tout ce que tu as souffert pour moi. Mais moi, qu'est-ce que je ne te fais pas souffrir? Quelle est la souffrance véritable de Jésus? C'est mon endurcissement, c'est le fait de s'apitoyer, on va dire, de pleurer, comme a fait Judas, en somme. C'est cela, suivre Jésus dans la passion. Ce n'est pas passer dans la... C'est cela, suivre Jésus dans la passion. Ce n'est pas passer dans la cuisine. Ça, c'est le Père Valin qui dit ça. Dans la cuisine, chercher quelques oignons pour pleurer plus facilement. C'est ouvrir notre cœur à la grâce surabondante de la liberté qu'il veut nous donner. L'enjeu de Gethsémani, c'est... c'est voir notre volonté dévoyée à nouveau, qui va se rétablir sur la sienne grâce à son amour, mais qui va être changée en sa volonté. Ce n'est plus ma volonté, mais c'est sa volonté. À chaque fois que vous allez dire oui à la volonté de Dieu manifestée dans un événement, un contretemps, oh mince, le rendez-vous que j'avais est annulé. Il y a deux possibilités, passer le reste du temps de sa journée à vociférer des mots d'oiseau, ou dire « Merci Jésus, tu le veux, je le veux », et puis on passe à autre chose, et puis voilà. Et là, c'est tout petit, Par contre, quand vous faites ça, vous êtes donc visité par la grâce, par la volonté de Dieu, parce que c'est ce qu'il veut. On a dit, hein, c'est le quotidien qui se présente à fleur de la terre qui veut, c'est ça sa volonté. Par contre, son amour à ce moment-là, quand on dit oui, nous visite, sa vie divine transforme la nôtre. C'est-à-dire, il met dehors de notre volonté l'amour propre, qui aurait voulu se contenter parce que je voulais voir, je voulais aller à ce rendez-vous absolument, et puis c'était comme ça que c'était prévu, donc il faut que je lâche, mais j'y arrive pas. Et là, en acceptant, petit à petit, année après année, votre volonté devient la sienne, parce qu'il n'y a plus de choix dans la nôtre. On veut spontanément ce qu'il veut. On est purifié de notre amour propre. Tout à l'heure, je vous parlais de purification passive et purification active. Il y a l'active, c'est nous qui choisissons, et dans la passive, c'est lui qui nous purifie sans nous. Et ça, c'est pour arriver à justement, vous imaginez, rien qu'à vous le dire, vous devez sentir le bonheur à ne plus avoir à l'intérieur de soi de tension intérieure à dire qu'est-ce que je dois choisir. J'ai pas envie d'aller là, mais pourtant il n'y a pas à dire, il faut que j'y aille, quoi. Et ça, qu'est-ce que ça rend malheureux, quoi, hein? D'être à l'adoration et d'être incapable de couper court à des tas d'envies, des tas de désirs, des tas de souhaits, hein? Qu'est-ce que j'aimerais bien voir mes petits-enfants à la messe le 25 décembre et s'entretenir. Alors, je comprends la souffrance, mais est-ce que vous croyez que c'est en y pensant tout le long de l'adoration que vous allez les faire aller à la messe du 25 décembre? Non. Par contre, de choisir d'inviter, je sais pas, la vieille tante qui m'énerve au dîner du 25 décembre parce que mon mari me fait une scène pour que je l'invite, et en plus, il faut que je fasse de la bonne cuisine, parce que je serais tentée de faire de la mauvaise cuisine, rien que pour lui montrer que je ne suis pas très contente, etc. Enfin, je gardais quand même le petit mot. Vous savez, non, c'est quand même moi qui aurais raison. C'est des situations, je suis désolée, au fond de soi, qu'on ne se le dit pas tout ça, vraiment. C'est tout ça, c'est caché. C'est vrai, il y avait quelqu'un qui disait, je crois que c'est le père Verlin, si on pouvait voir, alors, si je pouvais voir ce que vous avez dans vos têtes, là, hein, oh, ce serait extraordinaire, hein, parce qu'on cache beaucoup de choses dans nos pensées, hein. La sœur sait pas, on ne sait pas, hein, ce qu'on pense, hein. Mais des fois on en pense long sur les uns et les autres, hein. Mais il ne sait pas, donc c'est pas grave. Je fais sourire Colgate et ça passe. Il n'y a que Dieu qui sait, hein. Et voyez l'enjeu, hein, de Gethsémani, de Noël, de devenir sa volonté. Et là, je peux vous assurer, ça, c'est du bonheur. Et c'est, je le redis parce que souvent on me dit. Quand je fais des cours avec elle, mais c'est vraiment un bonheur qu'on peut goûter sur la terre. Ah oui, faut pas attendre le ciel pour ça. Il a vécu Gethsémani pour ça, pour que notre volonté devienne la sienne, qu'on veuille toujours ben, lui, en somme, qu'on meure, hein, c'est des termes qu'on n'emploie plus, qu'on meure à soi, voilà. Qu'on soit moins égoïste, et l'égoïste c'est l'orgueil qui nous rend toujours tourner sur nous-mêmes, c'est l'orgueil, hein. Donc à la longue, de refuser à son orgueil de poser le choix, mais que l'amour pose le choix, petit à petit on est gagné et on devient lui. Vous n'allez pas le croire, j'ai dépassé le temps, donc je vais vous laisser. Ah, vous êtes gentil. Donc l'année prochaine, enfin, oui, en plus on se revoit l'année prochaine, parce que d'ici le 25 on va pas se revoir quand même, si dans le cœur de Dieu à chaque Eucharistie. Donc voilà, on s'arrêtera, en tout cas on s'arrête pour aujourd'hui là. Je pense que vous avez de quoi entrer dans la grande semaine préparatoire à Noël, hein, de mesurer les enjeux de nos volontés, hein, les petites. En plus là, il va y avoir plein de préparations, mesdames, hein, pour les cuisines, et messieurs, et pour les invitations, et quels sont mes choix, comment je les pose pour faire entrer plus d'amour, en fait, Quentin, pour que l'orgueil tombe, hein, et si voilà, c'est comme ça qu'on va faire naître le salut dans nos familles, hein. Et alors, on se garde bien uni dans la prière pour ces temps liturgiques qui sont importants, parce que le salut arrive, mais très peu l'accueilleront. on se retrouve, vous allez recevoir sur la fin de l'année, soit par la voie postale ou soit par internet, les nouvelles dates des nouvelles formations pour l'année 2026. Je vous donne quand même la prochaine, c'est le samedi 17 janvier. On termine par la prière, à moins qu'il y ait une ou deux questions. Comment ? Oui, Notre-Dame de Pommain, oui. Voilà. Et puis, la prochaine fois, je pense, à moins que l'enfant Jésus me donne une autre inspiration à Noël, mais j'envisage de continuer, parce qu'on n'en est que la deuxième, il y a une troisième, comment dirais-je, apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Voilà. Parce que ça me permet en même temps, eh bien, de vous parler sur d'autres sujets. Hein. Voilà. À moins qu'il y en a un ou une d'entre vous qui avait un autre souhait. Hein. Là, j'abandonnerai un exemple. Ma volonté pour adhérer à la vôtre, mais je crois que la vôtre est inspirée par Dieu. Parce que Dieu passe par le prochain. Voilà. Et c'est ça, c'est, vous voyez, comment savoir la volonté de Dieu ? Ben voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas toujours confort à mon orgueil. J'insiste à mon orgueil. Voilà. On termine ? Au nom du Père. Ah, pardon, une petite question ? Voilà. En vous voyant vous lever, je me dis, ah, le merci. La volonté de Dieu qui se manifeste à nouveau à moi. J'ai oublié de dire, alors je l'ai noté dans le programme que vous recevrez, mais merci de me rappeler. Donc depuis l'année dernière, certains d'entre vous, et l'idée est gardée parce qu'elle est bonne, et bien de se retrouver donc à la suite de la formation que je ferai très courte, du coup je terminerai peut-être l'heure sainte, du coup ce sera bien, on resterait pour échanger et se souhaiter ses voeux autour d'une galette que chacun apporte plus ou moins, moi j'apporterai, mais voilà, si vous voulez apporter boisson et galette, pour échanger après la formation sur place ses voeux, et ça crée bien sûr une ambiance fraternelle, hein, et de convivialité, qui est aussi un aspect, bien entendu, de la garde d'honneur. Voilà, les amis des enfants, du cœur de Jésus. Le 17 janvier, voilà. Donc, pour souhaiter ses voeux, puis après, ce serait plus sérieux. Voilà. En grande union, et puis on termine. C'est bon pour les questions ? Voilà. Oui ?
Le choix, et vous avez parlé de choix concret, mais il y a un choix que tout le monde ne fait pas, c'est de choisir d'accepter la vie.
Ouais.
On pourrait même voir que la nuit de Noël, c'est une de celles où il y a le plus de tentatives de suicide dans l'année. Et que on voit bien des personnes malades ou très âgées. Une fois, ça m'a révélé parce qu'à la radio, on interviewait une dame de 100 ans qui disait, mais j'ai jamais demandé un livre. Et en plus, je suis sans colère. Enfin, elle a été prête en colère.
Ouais, c'est vrai. Non, vous avez raison. Alors, vous voyez, est-ce que c'est une question ou est-ce que vous en faites la constatation ?
C'est un peu une question. Parce que ouais. Moi, par exemple, il y a des jours où je me traîne un peu dans la journée.
Ouais. Ah, tout à fait. Et mais ceci dit, si on se met dans la démarche que je viens d'expliquer, moi aussi ça m'arrive. Et pas de manquer, de pas avoir l'élan. Parce que bon, que Jésus, des fois, Jésus, je suis morte, quoi, je suis crevée aujourd'hui. Et si tu veux ça, bah tu veux ça, Jésus. Bah c'est bien, Jésus. Je le veux, tu le veux. C'est ta volonté. La vie spirituelle ne commence que quand vous avez pris la décision. Il faut dire oui à Jésus. Dans le très 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 concret, et chez vous le très très concret, c'est « j'ai pas envie aujourd'hui de me traîner, je suis crevée » ou « j'ai pas le moral, j'ai un vague à l'âme, je suis dépressive aujourd'hui, il y a des gens qui vivent ça en dents de scie, de plus en plus. » Le monde est dur, attention hein. Mais alors, surtout, ne pas chercher qui épingler. C'est parce que j'ai mal dormi, parce que j'ai mal mangé, parce que la voisine si, parce que j'ai pas de but dans ma vie, parce que si, parce que ça. C'est des paravents, ça sert à rien. Au contraire, vous vous épuisez, vous créez des tensions supplémentaires et ça empêche Dieu de vous visiter. Par contre, La volonté de Dieu, elle est manifestée à moi. Ce matin, je me lève, j'ai un vague à l'âme, je sais pas trop, j'ai pas la pêche. Hein. Oh là là, ça va être dur aujourd'hui, je vois les gardes d'honneur, j'ai pas envie. Je rigole. Non, je rigole. Hein. Mais vous voyez, le truc que tout le monde a, puis en plus, il fait froid, humide, oh là là, enfin, ça chauffe pas le radiateur, il y a une caille ici, enfin voilà. Tout est le truc, rien ne va, quoi. Bon, ben Jésus, je le veux. Voilà. Et je vais me traîner avec ça pour les âmes. Mais j'irai pas voir parce que le chauffage, il est froid, parce que la mère supérieure, elle, bien entendu, elle a pas monté le chauffage, elle a oublié de monter la chaudière ou parce qu'on n'a pas d'argent, c'est tout ça. Après, et puis, vous voyez, ça sert à rien. Je vais pas empêcher Jésus de me visiter, quoi. Hein. Donc je dis oui à tout. Et là, ça va être extraordinaire parce que je suis sûre que je suis dans la volonté de Dieu et je ne fais pas la mienne. Qu'en plus, il me visite, il me sanctifie. C'est quand même indolore. Hein. Et je me fais sauveur avec lui. Je collabore au salut. Et je vais voir, hiver après hiver, ma volonté transformée en la sienne. Enfin, je suis gagnante. Hein. Hein. Par contre, il faut accepter le menu qui est servi. Et le menu, il est le seul à savoir ce qu'il me faut pour me sanctifier, pour devenir un autre lui-même. Si vous choisissiez, oui, moi Jésus, je te dirais oui, si tu me demandais ça, ça je suis sûre que si tu me demandais un truc comme ça, ce qu'a la voisine par exemple, si tu me demandais ça, moi je te dirais oui. Ça là, mais là, ce que tu me demandes là aujourd'hui, non, je ne suis pas capable, tu vois bien. Non, c'est ce qui se présente dans votre quotidien, parce qu'il est le seul à savoir par quel chemin de dépouillement de votre orgueil, parce que je suis désolée, mais on n'est que des gros orgueilleux, moi la première. Et c'est pour ça que quand je touche mon radiateur, il est froid et que j'ai des mitaines. Hein. Et je ne suis pas une stigmatisée, voilà. Hein. Et j'ai déjà eu ça, donc dans pitié, quoi. Donc voilà, c'est. En fait, compte, si c'est dur, c'est parce que vous en êtes capable de le vivre en union avec lui. Et ça, du coup, ça appelle à davantage de à voir les choses de mon quotidien venues de qui viennent de lui et qui me demandent de m'approcher davantage de lui. Et moi, je voudrais surfer sur la vie. Oui, Jésus, je t'aime, mais il faut que ce soit facile. Allez lui demander si à Gethsémani ça a été facile. Vous voyez, il faut se remettre dans le contexte. Je dis pas que c'est facile d'avancer sans avoir envie de vivre. Mais par contre, vous revenir toujours, c'est ce qu'il veut pour moi. Et c'est mon bien qui veut pour moi. Si vous donnez quelque chose que vous lui demandiez et qui n'est pas bien pour vous, et que vous allez à la fin de votre vie en enfer, vous irez voir Dieu et vous diriez quoi ? Comment se fait-il que tu as permis quelque chose qui me fasse aller en enfer ? Dieu qui vous aime ne peut pas vous demander quelque chose qui vous fasse aller en enfer. Et il y a des vies qui sont dures sur la terre, c'est une vie dure certes, mais une vie qui sera récompensée. Je suis désolée. On ne vit plus maintenant la tête au paradis. On ne parle plus d'espérance de la vie éternelle. Mais vous êtes sur la terre pour envisager la vie éternelle. Donc quand moi aussi j'ai mon vague à l'âme, bah non, c'est la tête au ciel et puis on avance. Et puis souvent le lendemain, c'est moins fort. Voilà. Parce que Dieu en vous visitant vous donne la grâce d'envisager la journée de demain. Hein? Et pour ceux que vous connaissez et qui n'ont pas envie de vivre, faites comme la mère de famille, allez puiser à Gethsémani la grâce pour eux, mais pas des neuvaines. Puisez dans la foi. Jésus, donne-leur la grâce de vouloir vivre. Celle que tu nous as obtenue à Gethsémani. Voilà. En grande union. Mais voilà, j'aurais une pensée aussi, hein, bien entendu, pour tous ceux qui n'ont pas envie de vivre.
Ouais.
Oui, 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 non, non, mais oui, alors dans une communauté, il y a celles qui ont chaud et celles qui ont froid. Après, attention, à mon exemple, je ne suis pas du tout à revendiquer qu'il fasse chaud. Hein. Ma condition, je l'aime, je pense que je donne l'image quand même d'une religieuse heureuse, je crois. Hein. J'aime beaucoup ma vie religieuse, pour rien au monde je me serais mariée, mais voilà, en somme, les exemples que je prends sont certes limités, mais c'est pour essayer de vous faire, de toute façon, c'est le but d'un exemple, c'est toujours limité. Mais dans une communauté, comme dans une famille, il y aura toujours les pour et les contre.
Et aussi.
C'est pareil. Mais par contre, celle qui a chaud, il lui est demandé de dire oui au fait qu'il fasse chaud. C'est le plat qui vous est servi. et n'inventez rien. Et ce qui est important, c'est quand vous dites non, je bloque le Saint-Esprit. Hein? Ma sanctification s'arrête au moment où je dis non. Par contre, deux minutes après, si vous faites le choix, non Jésus, bon non, non, elle vague à l'âme, là je le prends parce que c'est servi sur un plateau d'or, là. Hop, ça repart. Hein? En grande union et belle fête de Noël. Merci beaucoup. Oui, merci, merci. Ouais, merci beaucoup.